grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 6 août 2014. Bienvenue à ce grand dialogue. Nous tentons de comprendre l'ampleur des dégâts causés par les engins à deux roues dans le pays avec en toile de fond les motos Jakarta. Cette émission parlera de trois axes, les raisons de la floraison de la moto Jakarta au Mali, la sécurité routière et les motos Jakarta et les règlements en vigueur en matière de sécurité. Les invités à ce débat, commandant Moussa Bagayoko de la protection civile, commissaire Idrissa Sangaré de la police nationale, Madame Assassila, directrice nationale de l'ANASER, Elhaj Dantouma Kouita, syndic du syndicat national des commerçants détaillants. Je suis Famoussa Sidibé, Petit Ndiara est à la technique. Studio Tamani. Au début des années 2000, le marché malien fut envahi de motos de marques chinoises avec de multiples pseudonymes, Royal, Sanili, Jakarta et bien d'autres. Mais dans ce jeu de séduction commerciale, c'est la Jakarta qui continue d'engranger des succès commerciaux. Elle est très vite devenue la moto de rêve pour la jeunesse. Chacun veut en posséder une pour se faciliter les mouvements. S'y rouler à moto à un certain âge était propre aux nantis, il ne l'est plus depuis l'arrivée de la moto Jakarta car son prix est abordable. Le prix moyen d'une moto de 125 mètres cubes de type Jakarta a chuté de 750 000 à moins de 250 000 francs CFA. De plus, l'engin consomme peu de carburant. Il est surtout écologique et ne rejette de fumée qu'en cas de pépins. Les pépins, justement, rien qu'en 2014, la protection civile a enregistré dans la catégorie de moto à moto 1796 cas d'accidents occasionnant 65 décès et 2290 blessés. Quelles sont les raisons de cette floraison de moto Jakarta au Mali? Je m'adresse là aux commerçants détaillants. Elhaj Dantouma Kouita, syndicat national des commerçants détaillants.
Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Elhaj Dantouma Kouita. Je suis du syndicat national des commerçants détaillants du Mali. La floraison, comme tu viens de dire, c'est à partir de 2002. Que les Chinois ont commencé à faire les motos Yamaha. En ce temps, les Yamaha japonais coûtaient ici à 1 750 000 francs.
Les motos originales.
Les motos originales japonaises. Bon, nous sommes des détaillants, mais nous avons des contacts en Chine. Les Maliens résidents là-bas. Moi, je me rappelle une première personne, Sadia Doukouré, qui m'a appelé. C'était en 2001 pour demander si les Yamaha pouvaient marcher ici.
Les imitations.
Les imitations. Bon, comme c'était un ami à mon frère, j'ai dit que ce n'est pas, mais il faut essayer. En ce temps, quand on partait acheter des habits, on achetait 2 ou 3 Yamaha pour envoyer. On a fait l'expérience. Les Yamaha, il y a eu des difficultés par rapport à l'adaptation. Maintenant, vers 2003-2004, ils ont commencé les Jakarta. J'ai fait partie des premières personnes. Je ne suis pas vendeur de moto, mais quand on achetait des habits, on achetait 2 ou 3 pour envoyer. Notre objectif, c'est pour vraiment que le Malien lambda ait la moto. Parce que nous sommes des commerçants, on pense qu'il faut faire tout pour qu'il y ait des choses à moins cher. Mais vraiment, le débordement aujourd'hui avec les accidents, ça c'est autre chose. C'est l'objectif de nous, notre syndicat national des commerçants détaillants, c'est pour que toutes les choses soient à un prix où les gens peuvent l'avoir. C'est comme ça que c'est parti. La floraison est partie du prix et le prix c'est depuis la Chine. Ce n'est pas le gouvernement, ni l'État, ni l'ambassade, c'est nous les détaillants et nos résidents qui sont là-bas qui ont négocié.
D'accord.
Je fais partie des gens qui ont négocié les premières heures pour qu'il y ait des Jakarta au bon prix au Mali avec notre association, le syndicat national des détaillants.
Au bon prix au Mali. Alors, cette floraison de moto Jakarta est déversée sur la route. Je m'adresse à la police nationale. Commissaire Idrissa Sangaré, vous êtes de la compagnie de la circulation routière. Quelle est l'ampleur aujourd'hui des dégâts sur la route que causent les motos Jakarta?
Commissaire de police, ça sera le commandant de la campagne de circulation routière. Mmh. Comme vous-même, vous venez de le dire, il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, que nous assistons à une prolifération du nombre d'engins à deux roues, communément appelé Jakarta, dans la circulation de Bamako. Ça ne va pas sans désagrément pour beaucoup d'usagers. Pour la plupart des cas, il est à constater que c'est des jeunes qui empruntent ces engins à deux roues et qui méconnaissent le code de la route, qui méconnaissent énormément le code de la route, ça crée beaucoup de désagréments dans la circulation. Si nous constatons bien, il ne peut pas avoir 24 heures sans qu'au moins sur 20 cas d'accident de la circulation routière, un conducteur d'engin à deux roues communément appelé Jakarta est en cause. Donc c'est un problème de santé publique actuellement au Mali et spécifiquement à Bamako.
Alors la protection civile, c'est à vous qu'on fait appel à chaque fois qu'il y a des blessés et même pire que ça. Quel est aujourd'hui le constat sur le terrain?
Vous avez le commandant Moussa Brayo, commandant de la première unité d'intervention des sapeurs-pompiers de Ravela. Aujourd'hui, effectivement, les 80% de nos interventions sont des sorties dues aux accidents sur les voies publiques. Et les causes de toutes ces sorties, les 60% sont des causes dues aux accidents des motos. Des motocyclistes qui sont la plupart de nos victimes, accidents de la circulation aujourd'hui. Et vous voyez, en un seul mois, je prends l'exemple sur nos statistiques de sortie. Pour le mois de janvier, si je fais un peu en arrière, sur 1400 jours de sortie, il y a 763 qui sont dus aux motos. Et le reste des sorties, les 547, c'est les véhicules. Et 30 autres engins. Donc, autres, c'est les pousse-pousse qui sont en cause et d'autres, les tricycles qui sont en cause. Mais la plupart des sorties, c'est dû aux motos.
Alors, une agence qui s'occupe de la circulation routière, l'Agence nationale de la sécurité routière, madame, vous êtes la directrice de cette agence. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que votre agence fait en matière de sécurité routière?
Non, comme vous venez de le dire, effectivement, nous sommes un service qui a été créé pour prévenir les accidents de la circulation routière. Nous sommes un service de prévention. Quand on dit prévention, nous agissons en amont par des formations, des sensibilisations, quelque sorte pour l'éducation civique des usagers de la route. Comme le thème qui est là aujourd'hui, qui concerne les conducteurs d'engins à deux roues, les engins communément appelés moto Jakarta, vous savez, aujourd'hui, l'une des causes de la prolifération de ce moyen de transport, c'est surtout l'échec des transports publics des personnes. Et ceux qui se souviennent au Mali, avant les années 90, et évidemment, la population augmente d'année en année. Et ce qu'on a connaissait avant, c'était surtout les bâchés, communément appelés les durdruni. Après ce
transport
en commun. Donc après cela, il y a eu des compagnies de transport qui se sont installées au Mali, comme Tababis, Bamabis. Mais vous savez, avec la dévaluation en 1994, ces compagnies de transport ont été obligées de fermer et un besoin de transport en commun s'est créé. Comme il n'y avait pas assez de moyens et que, comme vous l'avez constaté, les utilisateurs des engins à deux roues, ce sont surtout les élèves étudiants. Donc, pour ne pas être en retard à l'école, pour arriver à temps au lycée, pour arriver à temps dans les grandes écoles, à l'époque, ce n'était pas encore des universités. Donc, les parents de ces enfants se sont rabattus sur les motos. Comme nous le savons tous, au Mali, il n'y a pas une famille où on n'a pas 5 à 6 enfants qui doivent aller à l'école. Donc, en essayant de combler ce besoin-là, en essayant de trouver une solution à ce problème, on s'est rabattu à ces engins à deux roues. Et la deuxième cause, comme le représentant du syndicat des commerçants de terrain l'a dit, et à l'époque, avec les motos, Yamaha Dam, Yamaha 100 et autres qui étaient là, qui étaient de qualité, mais qui coûtaient cher, on a été imaginatif pour trouver le moyen de mettre à la disposition des Maliens
des engins beaucoup plus abordables.
Beaucoup plus abordables. Vous savez que nous sommes un pays pauvre. On n'a pas honte de le dire. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, au lieu que ça soit une solution à un problème, avant de devenir même un problème, c'est devenu même culturel chez nous. Tout le monde aujourd'hui veut posséder sa moto Jakarta, même ceux qui n'en ont pas besoin. Parce qu'il y a des familles où on peut avoir 2 à 3 véhicules. Mais parce que c'est des engins dont la conduite est facile, souvent on pense qu'avec les embouteillages c'est plus rapide. Donc chacun quand même a un engin, au minimum un engin à 2 roues à sa possession, même pour les petites courses. Voilà les raisons pour lesquelles il y a eu cette prolifération. Et nous agissons pour
vous,
l'ANASER, nous, Agence nationale de la sécurité routière, nous agissons pour un changement de comportement. Si nous ne pouvons pas interdire l'importation de ces engins à 2 roues, parce que le besoin est là qui n'a pas été comblé, si nous ne pouvons pas éviter les accidents de la circulation routière par rapport à ces engins à 2 roues, mais ce que nous faisons, c'est pour faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts, qu'il y ait moins de conséquences par rapport à l'utilisation de ces engins à 2 roues.
D'accord. Alors, je vais juste demander à M. Koïta. Monsieur Koïta, est-ce que le commerce d'engins à 2 roues ou de Jakarta, si vous voulez, est soumis à une réglementation?
Non, le commerce n'est pas soumis à une réglementation. Quand tu as les moyens, tu achètes, tu importes, tu fais le dédouanement, tu gardes devant ta boutique, tu le vends. Il n'y a pas de réglementation.
Pourquoi la police n'a pas regardé cet aspect-là, réglementé un peu ce commerce?
Réglementer le commerce.
Le commerce, pourquoi n'avoir pas pris beaucoup plus de mesures en matière d'importation
de motos de Jakarta.
Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour que...
Bon, en ce qui concerne l'importation de ces engins à 2 roues, moi, je pense qu'il y a des réglementations en vigueur par rapport à ça, à ce que je cherche tous les engins, que ce soit les véhicules, les engins à 2 roues, tricycles, à 4 roues, ils doivent suivre des procédures de dédouanement par rapport à ça. Mais pour revenir un peu par rapport à la prolifération, il est à constater aussi qu'il y a beaucoup d'autres engins. Mais pourquoi spécifiquement la moto Jakarta? Parce que ça consomme peu. Ça consomme peu et puis c'est une moto qui dont la beauté extérieure s'impose. Ça fait rêver les jeunes. Tout le monde veut avoir sa propre moto et commencer à conduire sans se soucier. Les parents sans se soucier. Est-ce que mon enfant, je l'ai acheté une moto, et mon enfant a un permis de conduire? Les gens me connaissent le code de la route. Les gens achètent une moto Jakarta, ils se soucient ni des casques de protection. Et puis c'est un plaisir pour beaucoup de jeunes, le fait d'acheter une moto Jakarta et d'enlever les 2 rétroviseurs. C'est un problème. Donc actuellement dans la circulation, beaucoup d'accidents en cause où nos agents interviennent. Les agents interviennent dans la circulation pour dégager, rendre la circulation fluide. Mais quand un accident se commet, ils sont obligés de venir dégager la voie, donc mettre les engins à côté si possible, activer l'équipe de la protection civile. Mais tous ces accidents que nous constatons dans la circulation, où beaucoup d'engins à 2 roues, comme on appelle les Jakarta, sont conduits par des jeunes. Et par des jeunes qui sont, pour la plupart des cas, ne savent même pas conduire. Parce que le prix est facile, on peut se l'avoir facilement et on s'injecte dans la circulation.
D'accord. Alors nous allons vous proposer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie du débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Isaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Ils sont nombreux, nos auditeurs des différentes provinces du Mali. Un grand merci à vous qui nous suivez à travers notre vingtaine de stations partenaires. Nous sommes à la deuxième partie du Grand Dialogue qui parle aujourd'hui de la sécurité routière et les motos Jakarta en question. Nos invités, commandant Moussa Bagayoko de la protection civile, commissaire de police Idrissa Sangaré, commandant également de la circulation routière au niveau de la police nationale, madame Assan Silla, directrice de l'Agence nationale de la sécurité routière, et enfin, Eladj Dantoumé Koïta du syndicat national des commerçants détaillants. La sécurité routière et les Jakarta, quelle place occupent les deux roues dans les accidents de circulation? Je m'adresse là à la protection civile, monsieur Bagayou. Commandant Bagayou.
Oui. Vraiment, en réalité, il est temps qu'on revienne un peu à la maison. S'aventure trop. Parce qu'il ne faut pas seulement donner une moto à qui ne sait pas conduire. Si l'enfant n'a pas l'âge, souvent il y a de ces victimes qui n'ont même pas les 18 ans, qui n'ont même pas 16 ans, mais on les voit sur les motos. Et la moto de Jakarta, c'est une moto qui est extrêmement lourde. Arrivée à un certain niveau, à une certaine vitesse, quand on n'a pas vraiment les bras, bien musculé, c'est pas facile de la pouvoir arrêter en un freinage.
Alors, je rappelle que la coque est entièrement en plastique. Plastique dur.
Oui, plastique dur, mais le moteur est vraiment lourd. Donc, vous voyez, la carrosserie est en plastique dur quand même, mais très léger. Mais le moteur est extrêmement lourd. Ce qui fait que, effectivement, ça cause beaucoup d'accidents. Parce qu'arrivé à un certain niveau, avec la vitesse de conduite, donc on pensait qu'on peut s'arrêter à un certain niveau, mais quoi que vous fassiez pour le freinage, donc ça va dépasser et puis ça va cogner obligatoirement l'usager qui est devant soi. Et c'est ce qui cause énormément d'accidents.
Alors, quelles sont les statistiques annuelles que dont vous disposez à votre niveau?
Bon, les statistiques annuelles, à la date d'aujourd'hui, on a déjà bouclé les 6 mois de l'année, mais nous sommes déjà à 6027 accidents causés par les motos. Vous voyez que c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Et de cela, les victimes déjà sont au nombre de 6652 victimes, dont malheureusement 117 cas de mort. Donc vraiment, les statistiques vont un peu très rehaussé, or que nous sommes tout juste au début, au moitié de fin d'année, au moitié de l'année, et sans pourtant encore mettre un peu en évidence ce que toujours les fins d'année et les fêtes maintenant, voilà, donc constituer également les moments les plus adaptés, sinon les plus risqués par rapport au risque d'accident.
Alors, commissaire Idrissa Sangaré, vous êtes commandant de la circulation routière au niveau de la police nationale. Quel regard est-ce que la police a aujourd'hui dans la délivrance des permis de conduire de moto?
Par rapport à la délivrance des permis de conduire, en ce qui concerne les gens du Ouro, ça c'est du ressort de la direction régionale des transports. Mais en ce qui concerne les pièces afférentes à la conduite de tout engin du Ouro, communément, spécifiquement les motos de Jakarta, la première des choses est que l'usager qui conduit l'engin à deux roues doit avoir un permis de conduire délivré par l'ONT. Et puis la moto doit être immatriculée. C'est l'ONT qui doit donner la plaque.
Pourquoi y a-t-il tant de difficultés à mettre tout cela en place?
Je dirais qu'il n'y a pas trop de difficultés par rapport à la mise en place de toute cette procédure, parce que l'ONT est en train de faire son travail en la matière, mais c'est les usagers qui ne veulent pas soumettre vraiment à la réglementation. Et puis, beaucoup de personnes ignorent que pour conduire sur une moto, la moto doit être obligatoirement assurée. Les gens ne le font pas. Et puis, avec les autorités, avec l'ANASER, nous sommes à pied d'œuvre pour faire du port de casque de protection une obligation, une exigence, avec les deux rétroviseurs maintenir les deux réservoirs sur les engins à deux motos pour tout le monde. Ça, ça peut au moins indiquer un peu le phénomène.
Alors, pourquoi jusqu'à cette période, 90%, sinon 99% des motos ne sont pas en règle?
Bon, en tout cas, à ce qui nous concerne, nous nous sommes appuyés par rapport à ça, parce que toute moto qui est mise en frais au niveau de la commande de la circulation routière, l'usager est tenu d'assurer la moto et de prendre l'avion de l'année en cours. L'avion de l'année en cours, j'ai dit bien, ça c'est des facteurs, surtout que la mairie du district a initié pour décourager, je l'ai dit bien, pour décourager davantage la prolifération de ces engins à deux roues, surtout les Jakarta dans la capitale.
Donc une Parce fois la mise en fourrière, il faut payer obligatoirement l'assurance.
L'assurance plus l'avion de la localité où vous résidez pendant au moins 2 ans. C'est-à-dire, un usager qui circule à Bamako, si vous êtes interpellé lors d'une opération de contrôle d'engins à deux roues par la mairie du district de Bamako, vous devez avoir la vignette de Bamako. Si vous avez une autre vignette, ce n'est pas tenu en compte parce que vous résidez à Bamako. Et il faut avoir les taxes de développement local que vous payez pendant 2 ans de la dite localité. Tous ces facteurs contribuent à bien réglementer cette situation de Jakarta.
Alors, Madame Assassila, vous êtes directrice de l'Agence nationale de la sécurité routière. Vous menez des activités en amont pour prévenir les cas d'accident. Aujourd'hui, quel est votre plus grand projet en matière de sécurité routière et qui s'adresse aux usagers de moto Jakarta?
Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir quand même sur les statistiques, parce que nous sommes le service chargé de collecter et de produire les statistiques nationales.
En collaboration officielle, avec la
officielle, en collaboration avec la police, la gendarmerie, la protection civile, et la santé, tous les acteurs de la sécurité routière. Chaque année, on organise un atelier qu'on appelle atelier de validation des statistiques d'accidents de la circulation routière. Donc, pour l'année 2013, sur un total de 6059 accidents recensés, parce qu'on fait la compilation, on essaie de voir, de jauger, parce qu'il arrive que souvent, on est de doublons. On est de doublons, c'est-à-dire un accident compte deux fois. Mais les statistiques consolidées et reconnues par tous les acteurs donne un chiffre de 6059 accidents qui ont fait 4968 impliquant directement les motocyclistes. Donc, sur un total de blessés, on a recensé 8286 blessés, dont 4579 sont des motocyclistes. Sur un total de 529 tués, 286 sont des motocyclistes. Vous voyez la proportion. Même quand on prend le parc aujourd'hui, automoto, on est à peu près à environ plus de 5 millions de motos aujourd'hui au Mali. Donc quand il y a un accident, nécessairement, le nombre de conducteurs d'engins à deux roues sera élevé par rapport au nombre de conducteurs d'engins à quatre roues ou à trois roues. Et pour la délivrance des permis, il n'y a aucune difficulté, comme le représentant de la police vient de le dire. Le code de la route est très clair là-dessus.
Mais y a-t-il des sanctions?
La sanction, c'est lorsque la police va constater que le conducteur d'engins à deux roues n'a pas de permis, sa moto n'a pas de carte grise. Voilà, toutes les pièces que le conducteur doit détenir. Si la police ou la gendarmerie constatent qu'ils n'ont pas ces pièces-là, ils sont sanctionnés. Sinon, le Mali même, en 2008, entre 2008 et 2009, le ministère en charge du transport avait initié une opération qu'on appelle opération spéciale d'obtention de permis, d'autorisation d'immatriculation d'engins à deux roues. Cela nous a permis d'avoir d'engins à deux roues de conducteurs qui ont eu leur permis, qu'on appelle autorisation de conduire. Ils ont été formés à la théorie et à la pratique. Ce que les gens ignorent, monsieur, c'est qu'il y a des conducteurs d'engins à quatre roues qui ne savent pas conduire les motos.
Ça, c'est vrai.
Il y en a beaucoup. Moi qui suis là, moi je conduis un véhicule, mais je ne peux pas conduire une moto. Donc ceux-ci aussi se sont mis dans le groupe pour avoir leur permis de moto. Et cela nous a permis d'avoir beaucoup de jeunes. Il y a eu un engouement, il faut le reconnaître, par rapport à cette opération, qui a permis de diminuer le prix des taxes. Et à l'époque, certains n'avaient pas compris, mais peu après, les gens ont compris que c'était uniquement pour que le conducteur d'engin à deux roues, comme il a dit, sache apprendre le code de la route. La première obligation pour conduire un véhicule, quand je dis véhicule, moto, auto, la première obligation, c'est d'avoir son permis. Et le permis, on l'a que lorsqu'on passe pour apprendre d'abord la théorie, après la pratique, ensuite la pratique.
Alors madame, quelle relation existe-t-il aujourd'hui entre vous et les commerçants détaillants, sachant que vous menez une campagne, une très grosse campagne pour le port des casques? Est-ce que on ferait en sorte un jour que le Mali puisse faire en sorte que les commerçants ne puissent plus vendre de motos sans casque?
Les relations que nous avons avec les commerçants, les importateurs de motos, c'est que déjà, on a un cadre réglementaire qui a été créé, mis en place par le gouvernement, qu'on appelle le Comité national de sécurité routière, qui regroupe l'ensemble des acteurs, le public, le privé et la société civile. La société civile, ça peut être des commerçants, le privé, ça peut être des commerçants. Ils sont membres à part entière de ce Comité national de sécurité routière. Et on tient un règlement des réunions avec eux. En 2012... Dans le dernier trimestre de l'année 2012, on a même initié une série d'actions avec eux pour amener les commerçants à importer les casques. En accordant, le ministre des Finances a pris un arrêté d'exonération d'importation des casques. Et il y a eu beaucoup de casques qui ont été importés. Nous, nous sommes en train d'agir pour que les motos... Et je pense que depuis 2012, à moins que je sois contredit, les commerçants nous ont assurés, et nous avons la preuve, que les motos sont vendues avec les casques. Mais ce que les gens ignorent, quand il s'agit de porter le casque, le code de la route oblige le port du casque pour le conducteur et le passager. Mais ce qu'on voit dans la circulation, généralement c'est le conducteur seul qui porte son casque, on oublie le passager. Or, le code est très clair là-dessus. Et on a dit, le conducteur et le passager, et nous, nous sommes en train d'agir. Il y a même une série d'activités qu'on a initiées, que le ministre de l'Équipement et des Transports et de Désenclavement a initiées, pour amener les conducteurs d'engins à deux roues à porter des casques. Non seulement les conducteurs, mais les engins. En essayant de voir avec ceci comment renouveler l'exonération pour importer le maximum de casques. Et en faisant, en sensibilisant les usagers de la route afin que non seulement les conducteurs portent leur casque, mais surtout les passagers. Et en faisant en sorte que ce que nous sommes en train de voir, parce que avec la police également, comment et arrêter le fait que les gens se transportent à 2, 3, 4 sur la même moto. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est là, qui est encore plus grave. Les femmes qui portent leur bébé sur le dos et conduisent. Même si elles portent le casque, le bébé n'a pas de casque. En cas de problème, le bébé peut être blessé, sinon tué.
Alors, Dantouma, vous êtes du syndicat national des commerçants détaillants. Je vous pose une question, vous réfléchissez à la question et nous allons en pause avant que vous ne donniez votre réponse. Sur ce casse-tête qu'est aujourd'hui la combinaison entre la moto et le casque, madame l'a dit tout à l'heure, vous avez eu une concertation avec l'Agence nationale de la sécurité routière concernant le couplage en termes de vente de la moto et du casque. Pourquoi cela n'est pas effectif encore sur le marché? Je vous propose d'aller en pause avant votre réponse.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkin 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Merci de rester fidèle à cette émission qui parle du phénomène Jakarta, cette petite moto chinoise qui facilite le transport mais qui fait aussi beaucoup de dégâts. Cette troisième partie est consacrée à la relation moto-Jakarta et la réglementation en vigueur en la concernant. Nos invités, commandant Moussa Bagayoko de la protection civile, commandant Idrissa Sangaré de la sécurité, de la compagnie de la sécurité routière de la police nationale, madame Assa Sylla, directrice de l'Agence nationale de la sécurité routière, et El Hadj Dantouma Koïta du syndicat national des commerçants détaillants. Alors, monsieur Koïta, je vous posais une question tout à l'heure sur ce couplage qu'il peut y avoir aujourd'hui avec entre le casque et la moto en termes de vente. Est-ce que cela est concrétisé sur le terrain?
Oui, comme madame vient de le dire, la vente de la moto et du casque est couplée. Les gens achètent, mais les gens ne portent pas. Moi, je crois que la question doit être pourquoi les gens ne portent pas de casque. Moi, ma proposition serait qu'il y ait une éducation. Selon la société civile, on a vu le président du Haut Conseil islamique, on a vu des gens à la télé en 2012-2013 pour vraiment qu'ils donnent du bon exemple aux enfants qui portent des casques. Moi, je crois qu'il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation. Il y a un problème de contravention que... L'État est représenté ici par trois personnes. Anazer, la police, la protection, tout c'est l'État. Moi, je ne dis pas que c'est l'État qui est fautif, mais je me rappelle le 31 décembre, le président de la République, ses vœux du 31 décembre, moi j'étais à Houston, au Texas, on était là, il dit que les enfants maliens ne vont plus mourir comme ça. Que lui-même, ils vont voir des policiers, des gens qui vont les contrôler. Ça, c'est fait il y a 7 mois de cela. Moi, je crois qu'il y a un comportement de la circulation, pas seulement les Jakarta. Avant-hier, moi, j'allais être percuté par une sautrement avec mes enfants. Moi, je sais qu'il faut au moins force et de la loi.
Donc, vous estimez qu'il y a beaucoup d'incivisme
sur... Il y a l'incivisme qui est là, qui est de tous les côtés. Mais quand il y a incivisme, c'est l'État qui doit vraiment intervenir.
Alors, pourquoi il n'y a pas autant de contrôle comme le souhaite la population concernant justement ces motos Jakarta, commissaire Idrissa Sangaré?
Bon, par rapport au contrôle en ce qui concerne les motos Jakarta, donc, à chaque fois que la mairie du district le souhaite, donc, ils organisent des contrôles conjoints vraiment avec la compagnie de la circulation routière et nous procédons à la mise en œuvre de beaucoup d'engins en deux roues. Ce qu'il vient de dire le représentant des commerçants détaillants, par rapport au phénomène Jakarta, c'est une question d'éducation. Donc, à ce que je sache, il y a de cela quelques mois, l'ANAZER, comme sa directrice même est là, a initié un projet de code de la route simplifié. Si on peut apprendre vraiment aux enfants comment traverser la route, comment circuler sur la moto, il faut que les parents s'assument. Hein. Parce que, comme il a si bien dit, ce n'est pas seulement la moto Jakarta. Hein. Actuellement, au Mali, dans la circulation, c'est un problème de civisme. Il y a de ce comportement qui indigne pratiquement tout le monde dans la circulation. Bien vrai qu'il y a peu de pistes cyclables et de bandes cyclables. Parce que en ce qui concerne ces gendarmes à deux roues, ils ont vraiment des chemins à emprunter, qu'on appelle pistes cyclables, bandes cyclables. Si vous prenez l'avenue de Loya, c'est-à-dire de pyramide, du monument de pyramide jusqu'à la tour d'Afrique, avenue de Loya, il y a des pistes cyclables, mais pratiquement, c'est des pistes cyclables qui ne sont pas à l'état. C'est vrai que l'État est en train de faire des efforts par rapport à la réfection de certains tronçons. Mais si il est souhaitable dans les jours à venir qu'on prenne en compte ces pistes cyclables, il y a dans ces derniers moments la construction d'un passerelle cyclable au niveau de la corniche P8. Tout ça, c'est pour que les gens puissent se soulager. Mais le problème, réellement, c'est une question d'éducation. Parce que les enfants n'hésitent pas à brûler le feu rouge. Si votre feu est au rouge, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est autorisé à passer, c'est-à-dire quelqu'un qui est au vert. Il a parlé aussi des problèmes de contravention, c'est-à-dire les amendes forfaitaires. Un exemple, le non-respect des feux rouges, ça fait 2000 francs. L'excès de vitesse...
Contre-reçu.
Contre-reçu, évidemment, à la compagnie de l'instruction, l'excès de vitesse, ça fait 2000 francs. Le sens interdit, idem. Ça, il faut, dans les jours à venir, revoir vraiment cette taux d'amende forfaitaire pour frapper les gens avec le maximum de rigueur, donc pour que l'incisime puisse être atténué à maximum. Sinon, ça devient, le problème de Jakarta devient un problème de santé publique. Si vous faites un tour au niveau de l'hôpital Gabriel Toulou aux urgences, le nombre de blessés, victimes de Jakarta, de traumatisme, c'est trop crânien. Donc, c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est tout le monde qui doit œuvrer dans le même sens.
Alors, justement, vous faites bien d'en parler, commissaire. Nous allons demander à la protection civile quels sont les mécanismes en place au Mali pour la prise en charge. Est-ce que les premiers soins sont gratuits en cas d'accident?
Bon, en ce qui concerne la protection civile, lorsque nous sortons pour un accident de la voie publique, donc notre objectif principal d'abord c'est sécuriser, sinon maintenir la vie de la victime avant d'arriver dans un centre hospitalier le plus proche. Hein? La prise en charge maintenant c'est au niveau des centres hospitaliers. Donc là, la plupart des cas, ils ont des kits de premiers soins, donc dans les urgences, qui les donnent directement aux victimes. Mais ce qui concerne quand même la protection civile, c'est du lieu d'accident au centre hospitalier.
Ça, c'est
notre
gratuit.
Mission s'arrête là.
Gratuit.
Oui, en fait, les kits de premiers soins, bon, je ne saurais dire que si c'est gratuit ou pas, parce que c'est quand même un kit qui doit être renouvelable. Donc maintenant, ils vont peut-être donner le premier soin à la victime, mais en fait, la victime, avec, quand les parents se présentent, ils doivent pouvoir remplacer ce qui a été utilisé pour quand même la redynamisation, que ça ne s'arrête pas. Sinon, à chaque victime, imaginez, par jour, nous avons plus de 50 sorties par jour. Donc, si ces 50 sorties, il y a 30 ou 20 victimes qui sont orientées vers les centres hospitalisés. Et s'il faut faire une prise en charge gratuite de 20 à 30 victimes par jour, vous voyez ce que ça peut donner.
Alors, depuis un certain temps, on a constaté que la protection civile est très prompte à aller sur les lieux d'accident. Est-ce que cela est toujours le cas?
C'est toujours le cas parce que là, je donne vraiment, avec la collaboration, la très bonne collaboration de nos amis policiers qui sont presque dans tous les carrefours de la capitale. Donc, à chaque fois s'il y a un accident, c'est les 50% de nos alertes sont données par la police. Avec les carrefours qui sont tenus par eux. Donc si toutefois il y a un accident, donc ils nous alertent et subitement le secours sort par rapport à ça. Et leur collaboration même nous permet vraiment de canaliser un peu ces accidentés de la voie publique. Parce que tout de suite, s'il y a un accident, la protection civile se présente. Nous, s'il n'y a pas de policiers, nous exigeons souvent à faire appel à la police pour qu'ils viennent. Maintenant, notre mission, c'est de prendre en charge les victimes et les engins en cause maintenant sont directement mis à la disposition de la police.
Alors, madame, vous êtes la directrice de l'Agence nationale de la sécurité routière, à Saint-Sylla. Vous menez beaucoup de campagnes de sensibilisation autour justement de l'insécurité routière. Est-ce que ces campagnes sont acceptées de la population? Est-ce qu'il y a des barrières sociales qui font que certains messages ne passent pas?
Okay. Et avant de répondre encore à cette question, je voudrais quand même intervenir par rapport à la prise en charge des accidentés.
Allez-y.
Et vous savez, nous agissons en amont. C'est vrai, parce que nous, notre rôle, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Et nous menons beaucoup de campagnes de sensibilisation, d'information et de communication. Vous savez, au Mali, n'oublions pas quelque chose. Monsieur Sangaré de la police l'a dit tout à l'heure. C'est un problème d'infusivisme, mais c'est surtout un problème de méconnaissance des textes. Le code de la route est dans une langue que le Malien lambda, en majorité, ne comprend pas.
En français. Hein?
En français. Nous sommes un pays où il y a plus de Maliens qui ne maîtrisent pas la langue que ceux qui maîtrisent la langue. Même aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce débat dans une langue. Moi, si on m'avait demandé mon avis, moi, je préférais qu'on fasse le débat en bambara qu'en français.
Sachant que le studio Tamani a 5 journaux en 5 langues.
Voilà. Donc, nous, pour pouvoir nous adresser à la majorité, on aurait préféré, en tout cas, utiliser une de nos langues nationales. Mais comme ça a été décidé en français, on va le faire en français.
Donc c'est vous la pensez qu'il faut transcrire le code de la route en
C'est la raison pour laquelle,
nationale.
Comme M. Sangaré l'a dit, la NASER a initié un document qu'on appelle le code de la route simplifié. On a simplifié le code de la route à mettre à la disposition du Malien, de l'usager lambda, avec les images réelles du Mali, parce que si parmi nous, ceux qui ont été dans les auto-écoles, les images qu'on nous montre là-bas, ce ne sont pas des images du Mali. Les 90% des images qui sont dans ce document sont des images du Mali. Tout de suite, on se retrouve là-dedans. On voit à l'école et dans la pratique, dans la circulation, on rencontre les mêmes images. Ça, c'est très important. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour vulgariser cela. Et pour le vulgariser, on a formé l'année dernière 550 enseignants. Du fondamental au secondaire, 550 enseignants ont été formés à cet effet pour enseigner le code de la route comme une matière, comme les autres matières. Maintenant, par rapport à la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation routière, nous appuyons la protection civile et la santé. On fait des petits appuis, même si ce n'est pas beaucoup. L'année dernière, en 2013, par exemple, on a mis à leur disposition du carburant qui a été remis officiellement par le ministre en charge des transports. Une remise officielle a été faite. Parce que nous, notre souhait est qu'il y ait moins de tués et moins de blessés. Or, les victimes d'accidents de la circulation routière, les premiers soins sont capitaux. Les premiers soins sont capitaux. Et la plupart d'entre eux, et à moins que la protection civile me contredise, ils décèdent du lieu de l'accident pendant leur transport. Pendant ce temps de transport, là, s'ils ne sont pas bien pris en charge, la plupart du temps, ils décèdent. Et nous les aidons à ce qu'ils transportent assez rapidement les blessés.
Alors, maintenant, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, madame. Nous allons faire un dernier tour de table et nous allons donner la parole aux commerçants détaillants pour le mot de la fin.
Ok, bon, je suis très content. Je sais
30 secondes.
Oui, les réglementations ne font pas défaut dans ce pays. C'est l'application qui ne se fasse pas. Moi, au nom du syndicat national des commerçants détaillants, je pense que notre rôle, c'est de donner des choses à moins cher à la population. C'est que mon appel est du président de la République à tous les responsables de ce pays-là. Si on ne s'y donne pas, qu'on ne fait pas quelque chose, je sais que les enfants vont se détruire et c'est l'avenir du pays. Voilà.
La protection civile.
Ok, je vous remercie.
Commandant Bagayogo.
Oui. Je m'adresserai à la directrice de l'ANASER. Là, aujourd'hui, la province a plutôt besoin d'une ambulance médicalisée par rapport à la prise en charge des accidentés du lieu de l'accident jusqu'au niveau des centres.
Ce plaidoyer est compris.
Voilà, donc ce plaidoyer, je l'adresse vraiment à l'endroit de l'ANASER pour pouvoir nous appuyer par rapport à ce qu'on a au moins à Bamako, deux ambulances médicalisées, ça nous facilitera beaucoup vraiment la prise en charge.
Merci beaucoup, la compagnie de la circulation routière, la police nationale.
Pour le moment, ce que moi je peux dire à chaud, c'est d'inviter les usagers à deux roues à circuler doucement. Parce que tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous venons d'expliquer, ça c'est un travail de long terme. Donc à chaud, si les gens peuvent conduire doucement, même en cas d'accident, leur vie va être sauvée.
Madame.
Ok, moi j'ai trois mots, moi je m'adresse à trois personnes. Je m'adresse d'abord aux parents des enfants. Vous savez, les enfants ont besoin d'être encadrés. Chaque usager de la route est un gendarme, est un policier. Nous sommes nos policiers et nos gendarmes avant tout. Je m'adresse également aux importateurs de motos. Vous savez, les motos viennent en pièces détachées. Souvent, ces motos-là, moi, j'ai assisté à plusieurs reprises des gens
Les pièces tombent.
Non, les pièces tombent ou bien les conducteurs tombent d'eux-mêmes. Tombent parce que ce problème-là aussi existe.
En tant que maire, deux mots, madame.
En tant que maire, maintenant, je m'adresse aux enfants de porter le casque d'aller doucement.
Merci beaucoup, madame. Nous sommes à la fin de cette émission qui tentait de faire le point sur les accidents de circulation provoqués par les engins à deux roues. Les propos ont beaucoup porté sur la célèbre moto Jakarta. Il a été donc question de trois axes concernant ce casse-tête, les raisons de la floraison de cette moto Jakarta, la sécurité routière et cette moto, les motos Jakarta et les règlements en vigueur. Nos invités, commandant Moussa Bagayogo de la protection civile, commandant Idrissa Sangaré, commissaire Idrissa Sangaré, commandant de la police, de la sécurité, de la circulation routière. Et nous avons eu également Madame Assassila, directrice de l'Agence nationale de la sécurité routière. Et enfin, El Hadj Dantouma Koïta, du syndicat national des commerçants détaillants. Je suis Famoussa Sidibé. Petting Diarra était à la technique. Ousmane Djadé Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.